Radio Okapi.
Le journal Pascal Masirica.
Okapi.
Au sommaire ce matin, reprise le 11 janvier prochain à la haie des audiences au procès Jean-Pierre Bemba. Si au stade actuel, les témoins se félicitent du bon déroulement du procès, la défense se déclare par contre ahurie de constater que les enquêtes ont été bâclées du fait de la partialité du procureur. Au Nord Kivu, les travaux forcés imposés par des éléments FRDC suscitent un tollé de protestation de la population dans trois villages de Rutshuru. La coordination de Amanileo, dont les éléments sont mis en cause, dit ne rien savoir de tout cela. Et puis au Maniema, les centres d'inscription au fichier électoral qui étaient en arrêt reprennent du service dans 48 heures, au motif que les problèmes logistiques posés sont réglés en ce moment par une délégation conjointe CEI, PNUD, MONUSCO venue de Kinshasa. Bonjour à tous. Procès Jean-Pierre Bemba Gombo à la Cour pénale internationale. Après les premières audiences et en ces deux journées libres, les avocats des deux parties livrent leurs impressions. Du côté des victimes, leur représentante s'est dit satisfaite des travaux et revient sur la responsabilité de Jean-Pierre Bemba sur ses troupes. Maître Marie-Edith Douzima estime que les victimes qui ont témoigné sont revenues sur l'identification de ces hommes et de leur chef à qui ils obéissent. Ce qui implique le pouvoir de l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba Gombo sur ces hommes. On écoute Maître Marie-Edith Douzima, l'une des avocates des victimes.
Je suis satisfaite du bon déroulement de ce procès. Il y a eu des enquêtes faites par l'accusation pour qu'on en arrive aujourd'hui d'abord à la confirmation des charges contre Jean-Pierre Bemba et au procès qui vient de commencer. Nous ne pouvons pas nier que c'est le président Patassé qui a fait appel à Jean-Pierre Bemba pour que les troupes de Jean-Pierre Bemba se retrouvent sur le territoire centrafricain. Il était démontré par les témoignages et consorts. Eux-mêmes, ils sont allés, ils ont mis leur base à certains endroits et c'est eux-mêmes qui dirigeaient les troupes et les militaires centrafricains étaient complètement effacés. On va vous dire que oui, ben, c'est le gouvernement centrafricain qui a fourni les armes, machin, tout et tout. Maintenant, l'exécution des crimes, ça a été comment? Je peux vous dire que Bemba dit oui, quand j'ai été au courant, j'ai organisé des procès et j'ai sanctionné les auteurs. En tant que chef, il aurait pu arrêter ça puisqu'il était au courant.
Du côté de l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo, l'air n'est pas du tout à la joie. Maître Aimé Kilolo revient sur les faiblesses de l'accusation et sur la partialité du procureur. Pour lui, le procureur a écarté tout simplement les témoins qui peuvent déculpabiliser son client. Maître Aimé Kilolo.
On est dans une affaire de commandement militaire. Nous avons des officiers centrafricains qui étaient sur terrain, qui disent que c'est l'état-major général centrafricain lui-même qui s'occupait de toutes ces questions-là. Nous regrettons que le procureur, qui a pourtant l'obligation d'émener des enquêtes à charge et à décharge, donc une obligation d'impartialité, s'y refuse de retenir ces personnes-là qu'il a lui-même interrogées, tout simplement parce que ces personnes, finalement, déchargent. C'est surtout un sentiment amer, finalement, de constater qu'on a affaire à un bureau du procureur qui semble avoir bâclé, finalement, les enquêtes.
Les avocats des deux parties ont été interrogés à la haie par Jacques Motande. Notez que les audiences pour ce procès Jean-Pierre Bemba reprendront le 11 janvier prochain. Justice encore, c'est l'emprisonnement à vie pour Ildefonso Ategekimana, cet ancien lieutenant de l'armée rwandaise. Le verdict a été rendu hier après-midi pour un jugement en première instance à Arusha en Tanzanie. L'ancien officier rwandais comparaissait devant le tribunal pénal international pour le Rwanda, le TPIR, qui, comme vous le savez, juge en ce moment les responsables du génocide rwandais. Ildefonso Ategekimana a été poursuivi pour génocide, complicité de génocide, assassinat et viol commis en 1994 au Rwanda. La correspondance est de notre envoyé spécial à Arusha, Jeff Ngoy Mulunda.
Ildefonso Ategekimana est reconnu coupable, notamment de génocide pour les meurtres de Salomé Mujawayezu, Alice Mukawesa et Jacqueline Mukaburasa le 23 avril 1994. Il est reconnu encore coupable d'assassinat constitutif et de crimes contre l'humanité et coupable de violences sexuelles. Le condamné dispose de 30 jours pour annoncer ou non s'il va interjeter appel. En attendant, il reste sous la garde du tribunal international jusqu'à ce que soient arrêtées les dispositions nécessaires nécessaire pour son transfert vers un état dans lequel il purgera sa peine. Originaire de l'ancienne préfecture de Gitarama, Hategui Kimana a été arrêté au Congo-Brazzaville en février 2003. Son procès a commencé le 16 mars 2009. Il fait partie de 5 accusés que le procureur du TPIR, Hassan Boubacar, a vainement tenté de transférer au Rwanda. Il reste 4 accusés sur la liste de ceux qui sont en instance d'être jugés en 2011. Depuis Arusha, Jeff Ngoy, Radio Okapi.
Et puis au Nord Kivu, les populations de certains villages du territoire de Masisi se disent victimes des tracasseries des militaires FARDC. Les habitants des Kingi, Kabati et Tchougi notamment affirment être soumis au quotidien à des travaux forcés. Certains d'entre eux ont même commencé à vider leur village. Faisons le point de Goma avec Sifa Maguru.
Selon certaines sources locales à Kingi et Kabati, plus de 40 km à l'ouest de Goma, des militaires FARDC obligeraient à des chefs locaux à leur fournir de la main d'œuvre gratuite pour toutes sortes de travaux. Et en cas de non-respect de cette requête, notamment lorsque les chefs n'arrivent pas à réunir les nombres d'hommes réclamés, ils seraient soumis à payer 20 dollars par tête des personnes manquantes. Ces informations sont corroborées par quelques chefs locaux qui affirment avoir tenté en vain de contacter les officiers FARDC pour régler ce problème. L'un des notables a été joint au téléphone.
Il leur faut transporter même des histoires. Ceux qui ne vont pas là-bas, on les arrête, on les malmène, on leur fait payer des amendes.
Dans la localité de Rutingita, village Nyamugeyo-Tchougi, sur la route Masisi-Centre, les hommes ont carrément déserté leur village. 7 d'entre eux, qui viennent de trouver refuge la semaine dernière à Goma, affirment avoir subi des sévices corporels pour n'avoir pas été en mesure de transporter les effets militaires à cause du surpoids. Le coordonnateur des opérations Amanileo, qui commande les troupes mises en cause dans l'imposition des travaux forcés, dit n'avoir aucune information à ce sujet, même s'il promet de vérifier les faits. Goma, Sipamaguru, Radio Okapi.
Venir s'imprégner de l'évolution de l'enrôlement au Maniema et apporter des pistes et des solutions, tels sont les objectifs poursuivis par une délégation mixte venue de Kinshasa. Il s'agit du directeur du Bureau national des opérations à la CEI, du directeur de la division électorale de la MONUSCO et du conseil technique principal au projet d'appui aux élections du PNUD. Hier lundi, cette délégation s'est rendue à Kasongo, territoire situé à plus de 250 km de la ville de Kindu, où sont attendus 200 000 enrôlés. C'est aussi dans ces territoires où plus de 10 centres d'inscription n'étaient plus opérationnels. Pour Flavien Missoni, directeur du Bureau national des opérations à la CEI, des solutions ont été apportées à ces centres et ces centres pourront ouvrir leurs portes d'ici 2 jours. Il est dit au micro de Mami Alili Kibangu Salomon.
Population électorale attendue dans la province de près de 759 427. Kasongo devrait enrôler près de 205 000 électeurs. Donc nous avons été voir l'état de la situation à terme opérationnel. Nous avions au Kasongo près de 10 centres qui étaient en arrêt pour différentes raisons, parmi lesquelles plus de la moitié, dans lesquels des éléments de kit panneaux solaires avaient été subtilisés. Nous sommes venus avec le nécessaire et ces centres vont être rendu opérationnel dans les 2 prochains jours. Nous avons fait une mise à niveau du personnel technique qui assure la supervision, ce qui lui permet de répondre plus présent encore en cas de sollicitation pour les problèmes de panne technique sur le kit. Nous devons regarder beaucoup plus maintenant la question de la mobilité de nos contrôleurs techniques territoriaux.
Enfin, c'est peut-être un début d'issue pour le conflit qui oppose les deux actionnaires de Vodacom Congo, Congolese Wireless Network et Vodacom International, ont signé un accord encore confidentiel depuis un mois. Un accord qui envisagerait la vente de la société. C'est ce que révèle en tout cas une source proche du dossier cité par le magazine Jeune Afrique. Les deux partenaires étaient très opposés quant à la gestion et à la survie de leur entreprise Vodacom Congo. Ils sont allés même en arbitrage international en Europe. Georges Kamoudjava.
Si CWN et Vodacom International règlent leur litige à l'amiable, ils pourront solliciter la fin de la procédure en arbitrage à Paris. Les termes de l'accord signé il y a un mois ne sont pas encore connus, mais les preneurs se bousculeraient déjà, selon Jeune Afrique. Mais aussi, au sein de CWN, les consortiums congolais qui détient 49% de parts, les associés ne mettent pas encore sur la même longueur d'onde. L'un des associés, Keratsu, a écrit au gérant de CWN il y a 2 semaines pour l'interdire de s'engager dans cette vente partielle ou totale de l'entreprise sans consensus. Keratsu détient indirectement le 1/10 de Vodacom Congo. Mais ce n'est pas à l'associé minoritaire de décider, dit-on chez l'autre associé. L'enjeu est donc détaillé car Vodacom compte environ 4 millions d'abonnés. Chaque abonné est une valeur de $500, déclare un responsable de CWN.
Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'actualité dans 20 minutes.
Okapi, Okapi, Okapi.